Nikit Symphal, un féminicide, plastique, génocide silencieux. L'art au parloir, ce que le droit nous apprend de l'art, ce que l'art nous apprend du droit. Par Léa de Lyon et Léobardo Arango. Nikit Symphal a été tuée, en tout cas, elle-même de son vivant, a imputé un responsable des problèmes respiratoires qui ont conduit à son décès.
J'avais un emphysème qui était venu d'avoir trop travaillé avec le polyester.
Mais son meurtrier présumé est une entité qui échappe au droit pénal. Malgré les questionnements sur l'attribution de personnalité juridique à des non-humains, sujet que nous avons abordé dans nos 3 épisodes sur art, droit et écologie, nous sommes loin de la possibilité d'attribuer une responsabilité juridique à quelque chose comme le plastique. Le plastique est donc non imputable. Avant d'approfondir le cas de Nikki, les circonstances de sa mort et regarder le degré d'implication du plastique dans celle-ci, explorons la personnalité de son présumé tueur malgré sa non-imputabilité juridique. Pour parler du plastique, nous avons invité Sébastien Mabille, avocat du cabinet Seattle, qui connaît très bien notre suspect. Il mène une lutte acharnée contre celui-ci, dans des cas comme celui qui a opposé des ONG à la compagnie Danone.
Alors le plastique, c'est un objet de droit assez nouveau, qui, jusqu'à une période récente, ne faisait pas l'objet d'une régulation en tant que telle, hormis lorsqu'il devenait un déchet, mais déchet parmi les déchets, avec la réglementation qui peut s'appliquer en matière de gestion des déchets, les infractions pour les gestions irrégulières. On a tous des images de décharges remplies de déchets plastiques. Mais le plastique en tant qu'objet de droit problématique, c'est quelque chose qui finalement n'est pas encore abouti. On est dans le cadre d'un cheminement qui principalement au niveau international, avec des négociations en cours en vue de l'adoption d'un traité sur la pollution plastique. Pollution plastique qui avait été identifiée par le secrétaire général des Nations Unies en 2018, lorsqu'il avait publié un rapport sur les lacunes du droit international de l'environnement. Et parmi ces lacunes, le plastique ressortait en tant que lacune première, finalement, d'une pollution majeure, systémique, mondiale, qui contamine l'ensemble des écosystèmes, des plus hautes montagnes de l'Himalaya jusqu'aux fosses océaniques, et qui imprègne également nos corps humains. Mais on est sur une recherche déjà qui est aussi relativement récente. Jusqu'à peu de temps, il y avait très peu de chercheurs qui s'intéressaient à la question du plastique. Il y en a de plus en plus, et notamment de ses effets sur la santé humaine. Et la France a peut-être été pionnière, dans un certain sens, puisqu'elle a affiché, lors de la loi AGEC, la loi sur l'économie circulaire, elle a affiché un objectif d'interdiction des plastiques à usage unique. Et cet objectif de la fin des plastiques à usage unique est fixé dans la loi en 2040. Voilà, donc ça reste quand même assez loin, mais ça permet quand même d'opérer une trajectoire, et ce qui a conduit aussi à interdire certains objets en plastique. On pense aux pailles en plastique, on pense également aux cotons-tiges en plastique. Ça, effectivement, c'est très symbolique par rapport à toute la masse de plastique, et notamment les emballages plastiques qui, eux, sont en forte croissance, qui sont liés aussi au développement du commerce en ligne.
La problématisation du plastique, notamment au niveau juridique, est donc récente. Nikit Symphal, elle, est née en 1930. Les problèmes respiratoires qui ont conduit à sa mort en 2002 se sont manifestés à partir des années 60 et ont conditionné gravement son quotidien dès les années 90. À la non-imputabilité s'ajoute donc l'anachronisme et le principe de non-rétroactivité en matière pénale, puisque l'article 112-1 du Code pénal indique que
sont seuls punissables les faits constitutifs d'une infraction à la date à laquelle ils ont été commis. Peuvent seuls être prononcées les peines légalement applicables à la même date.
Cela veut dire que si le législateur n'avait pas établi une peine pour les faits en question avant la date de leur commission, il n'est pas possible d'appliquer une peine inscrite dans une loi qui arriverait postérieurement. Commençons nonobstant à regarder qui était Nikit Saint-Phal pour nous intéresser de plus près à la date à laquelle elle a rencontré notre suspect. Notre recherche débute en 1954, puisqu'entre 1930, son année de naissance, et 1954, malgré quelques cours de peinture et d'être immergé dans un monde artistique, Nikki ne s'était pas vraiment consacrée à l'art. En effet, jusqu'à ses 23 ans, elle a vécu une vie bourgeoise bohème, voyageant notamment entre les États-Unis et la France, et en profitant de la situation privilégiée de sa famille ainsi que de celle de son mari, l'écrivain Harry Matthews. Avec ce dernier, et grâce notamment à leur réseau et leur aisance bourgeoise, voire noble, ils s'intègrent dans le milieu artistique parisien. C'est lors d'une crise psychiatrique qui l'amène à être internée en hôpital qu'elle se met à faire de la peinture et à la sortie de son internement, prend la décision d'un virement radical. Quitter mari et enfant pour devenir artiste. Cette crise et les circonstances qui l'ont provoquée et entourée sont souvent mises en lumière. Elles touchent à des sujets importants comme le traitement juridique de l'internement psychiatrique ou de l'inceste, mais nous resterons centrés sur les faits qui l'ont conduit à l'affectation physique l'amenant à la mort. Ce n'est pas par la peinture que notre suspect, le plastique, s'est inséré dans son système respiratoire. C'est en s'approchant du nouveau réalisme, dans une démarche qui s'inscrit dans l'élargissement du champ de l'art et de la sculpture en particulier, que De Saint-Phal a exploré des nouveaux matériaux. Hélène Munier, historienne de l'art, nous parle de ce chemin.
Quand elle est subversive, elle commence à l'être quand elle s'affranchit par rapport à la haute culture de sa famille, noble, d'un haut niveau social, et donc d'un haut niveau de culture. Et qu'elle, au contraire, elle va jouer avec des objets de réutilisation, des matériaux qui ne sont pas nobles, comme le plastique en particulier, mais comme des grillages, comme tout ce qui lui tombe sous la main, en fait, de facto. Elle revendique pas grand-chose, en fait, explicitement. Elle répond comme elle est dans les interviews. Mais il y a deux mouvements artistiques qui peuvent l'avoir plus fortement influencée. Il y a celui du nouveau réalisme, que l'on connaît bien, via sa fréquentation avec Tinguely et tout le groupe qui va autour, Armand, César et compagnie. Mais il y a aussi tout son intérêt et sa curiosité et son attention à ce qu'on appelle l'art brut, qui est inventé à ce moment-là, juste avant 1948, avec Jean Dubuffet. Et dans l'art brut, tel que Dubuffet le définit, c'est vraiment un art qui se revendique comme non cultivé, non éduqué, non appris, qui n'est pas fait avec des acquis de type école des beaux-arts. Ça ne veut pas dire que c'est forcément un art inné. Ça veut dire que c'est un art qui est pratiqué avec simplicité, voire anonymat. On peut voir aussi de la subversion dans son rapport à la femme quand elle fait ses nanas qui contreviennent complètement au code de la Vénus classique traditionnelle, qui contreviennent même au canon de l'époque. Hein. On peut penser quasi contemporaine, la Marilyn de Warhol, et puis par ailleurs les nanas de Nikit Saint-Phal. C'est clair que l'icône de la femme séduisante, bah, c'est celle de Warhol, c'est pas celle de Nikit Saint-Phal. Mais quand elle est transgressive comme ça par rapport à un canon féminin, elle le fait avec une telle gaieté que ça passe et qu'il y a un dynamisme qui est complètement communicatif.
Tout indique que c'est avec ces nanas, en voulant s'émanciper du bronze et de la lourdeur réelle et symbolique que celui-ci porte, que Nikki s'est immergée dans le plastique, notamment à travers la résine de polyester combinée à la fibre de verre. Nous pouvons donc parler de 1965 comme une date indicative, puisque c'est la date de ses premières nanas faites avec ces matériaux. Cette date écarte donc encore plus le juridique pénal en ce qui concerne le début du processus de détérioration de la santé de Nikki. Mais écoutons le bilan que Maître Mabille fait des impacts négatifs aujourd'hui du plastique sur l'environnement et sur le corps humain pour essayer de déterminer si l'affectation pulmonaire de Nikki Tsinfal aurait pu être évitée à l'époque des faits.
Le plastique en soi est effectivement très problématique hein, sur ces trois items, environnement, droit humain, santé et sécurité des personnes. L'environnement, je pense que tout le monde peut s'en rendre compte, hein, le plastique a contaminé l'ensemble de l'environnement, a contaminé le grand cycle de l'eau, c'est-à-dire que le plastique qui se déverse dans les océans ensuite est réduit en microplastique et en nanoplastique, et ces particules de nanoplastique sont ensuite amenées dans les nuages avec l'évaporation et retombent sous forme de pluie, sous forme de neige. Et c'est la raison pour laquelle on trouve du plastique au sommet de l'Himalaya ou sur le continent Antarctique, puisqu'il est transporté dans ce grand cycle de l'eau et donc il contamine dès lors l'ensemble des composantes de l'environnement. Il faut savoir que ce qu'on appelle les continents plastiques, qu'on peut voir notamment dans le Pacifique avec ces grands agrégats de plastique, on estime aujourd'hui que le plastique visible sur l'océan, celui qu'on voit qui flotte, ne représente que moins de 1% du plastique présent dans l'océan. Donc on sait vraiment ces continents plastiques hein, qui peuvent sembler monstrueux, pourtant ne sont que la partie immergée d'un iceberg qui est encore plus monstrueux et qui est composé de microplastiques qui également contaminent l'ensemble du vivant et notamment les mammifères marins et tous les poissons, particulièrement ceux qui sont en bout de chaîne alimentaire, le thon, les spadons, les dauphins, etc. Problématique également sur les droits humains, alors ça c'est moins connu, mais la plupart des entreprises aujourd'hui fondent leur politique plastique, leur politique emballage, et c'est le cas aussi de très nombreux pays, sur l'idée du recyclage. Alors de un, c'est un mensonge, puisque le plastique ne se recycle pas. À quelques exceptions près, les bouteilles en plastique qui sont fabriquées en PET, c'est une certaine forme de plastique qui se recycle assez bien, mais ça va être 2-3 fois maximum. Sinon, le plastique, c'est ce qu'on appelle du décyclage, c'est-à-dire qu'un objet en plastique peut être transformé en un sous-produit, toujours en plastique. Et en fait, le recyclage, qui en réalité est du décyclage, permet simplement de retarder le moment où l'objet en plastique va devenir un déchet. Il faut savoir que les installations de recyclage, qui sont particulièrement présentes dans les pays qui sont les plus exposés à la pollution plastique, les pays qui sont les destinations du plastique qu'on envoie là-bas, notamment je pense à un très grand nombre de pays d'Asie. La Chine a fermé son marché d'importation de déchets plastiques, mais ce n'est pas le cas de la Malaisie ou de l'Indonésie. Donc il y a beaucoup d'usines de recyclage qui sont des usines extrêmement polluantes. Et la première chaîne de l'industrie du recyclage, c'est dans tous ces pays-là, donc quasiment la moitié du monde, ce sont des petits-enfants qui vont passer leur journée dans les décharges à ramasser les déchets en plastique pour les amener contre une rémunération toute symbolique, extrêmement faible, qu'ils leur permet en aucun cas d'avoir une vie décente pour les amener à ces installations de recyclage.
On est donc tous affectés par la question environnementale et les plus vulnérables encore plus en ce qui concerne l'affectation des droits humains. Mais c'est sur la troisième question, santé et sécurité, que nous pouvons plus facilement rapprocher le cas de Nikki Tsinfal.
Troisième item, santé et sécurité des personnes. Alors c'est là où la recherche est la plus récente, la recherche sur la contamination du corps humain par les microplastiques et les nanoplastiques, hein, puisqu'il faut savoir que la première cause d'ingestion du plastique dans le corps humain, c'est l'eau qu'on boit et l'air qu'on respire. Donc personne ne peut se prémunir, ou en tout cas personne ne peut se targuer de ne pas avoir de plastique dans son corps. Et nous sommes très certainement tous contaminés par le plastique. Le plastique qui a été retrouvé dans 100% du sperme des hommes qui ont été testés et dans l'immense majorité du lait maternel des femmes allaitantes, si bien que le premier aliment qu'on donne aux nouveau-nés aujourd'hui, ce sont des microplastiques et des nanoplastiques. Très récemment, des chercheurs ont établi que le plastique avait également pénétré notre cerveau et que nous avons également du plastique dans notre cerveau. Pour quelles conséquences ? Alors là, les recherches sont pas totalement aboutis. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a une baisse de la fertilité auxquelles sont confrontés l'ensemble des pays, toutes les régions de manière indiscriminée. Des chercheurs ont établi un lien de causalité chez les rongeurs, chez les rats, entre la contamination, l'ingestion de plastique et cette baisse de la fertilité. Ce lien n'a pas été encore établi scientifiquement pour l'homme, mais on peut imaginer que le fait d'avoir un certain nombre de matières plastiques dans notre corps est susceptible de nous exposer à ce type de risque. Étant également précisé que le plastique est constitué à base de pétrole, mais que les objets en plastique, pour avoir les propriétés qu'on veut leur donner, la couleur, la souplesse, la rigidité, etc., le plastique est complété par un certain nombre d'additifs chimiques. Et ces additifs chimiques, pour beaucoup, sont des perturbateurs endocriniens qui peuvent, eux aussi, avoir des effets très négatifs sur la santé et notamment être à l'origine du développement d'un certain nombre de maladies, dont des cancers.
Nous le voyons dans les déclarations de Sébastien Labille. Aujourd'hui, les effets nocifs du plastique sont larges et indéniables. Et la détermination de l'ampleur de son incidence sur la santé humaine est encore sujet de recherche. En ce qui concerne le cas de Nikit Sinfal, il semblerait donc que les effets d'inhaler du polyester et de la fibre de verre étaient méconnus lorsqu'elle a initié son travail.
Vous savez, quand j'ai commencé à travailler avec ces matériaux en 1960, c'était des matériaux très toxiques. Et à ce moment-là, on ne connaissait pas tout ça. Je veux dire, c'est seulement avant qu'on est devenu, depuis le mouvement hippie, beaucoup plus conscient de la pollution, des matériaux. On ne savait pas. Alors moi, j'ai utilisé des matériaux, mais absolument, qui auraient pu tuer un bœuf, mais je ne savais pas du tout.
Mais est-ce que cette méconnaissance aurait pu être évitable? Y a-t-il une cause de cette méconnaissance? Comme nous l'avons vu, le choix des matériaux de la part de Nikki n'était pas anodin. Il y avait un symbolisme particulier à son utilisation. D'abord par le rejet du bronze, un matériau chargé d'un poids symbolique accaparé par les hommes, et ensuite par le désir de rompre avec une vision traditionnaliste de la création artistique. En tout cas, il semble qu'il n'y avait pas d'outil juridique pertinent pour contrer la nocivité latente du plastique lorsque Nikit Sinfal entama la réalisation d'œuvres comme Senana. Le droit a évolué, et aujourd'hui, certains mécanismes juridiques obligent fabricants et fournisseurs à constater eux-mêmes les dangers inhérents à leurs produits et à en informer leurs clients utilisateurs et consommateurs. Quels autres mécanismes juridiques pourraient être utilisés aujourd'hui pour contrer les méfaits du plastique ?
Donc, au titre du principe de précaution, et cette fois-ci pas du principe de prévention, puisque le risque n'est pas certain, mais en tout cas il est très probable, on devrait aujourd'hui limiter drastiquement notre exposition au plastique, et c'est le sens, en tout cas c'est le point central des négociations qui ont lieu sous l'égide des Nations Unies, dans le cadre de ce futur traité plastique, c'est de savoir est-ce que ou non les États vont se mettre d'accord sur un objectif de réduction de la production du plastique, c'est un des points bloquants, comme le défendent notamment les pays pétroliers, on va uniquement se mettre d'accord sur les objectifs de recyclabilité du plastique, sachant que les perspectives de production de plastique dans le monde établies par l'OCDE sont extrêmement inquiétantes, puisqu'on prévoit à l'horizon 2050 un triplement de la consommation de plastique dans le monde, alors que nous sommes déjà submergés de plastique. Voilà, donc c'est un des points extrêmement bloquants des négociations qui n'ont pas abouti lors de la dernière session qui s'est tenue à Busan en Corée du Sud et qui a été bloquée par une coalition d'États qui représente essentiellement les États pétroliers, avec le lobbying aussi des entreprises pétrogazières, qui voient dans le plastique, dans le cadre des politiques de décarbonation de l'économie, qui voient un nouveau débouché pour, en tout cas un débouché prometteur pour l'industrie pétrolière et qui permettrait de continuer d'exploiter un certain nombre de champs pétroliers pour produire le plastique et non plus pour alimenter les moteurs des voitures qui passeraient à l'électrique. Voilà. Donc c'est vraiment tout l'enjeu, étant précisé aussi que la France, l'Union européenne fait partie de cette coalition avec un certain nombre d'États tels que le Rwanda notamment qui portent une ambition haute en matière de réduction du plastique et qui s'oppose à cette coalition d'États pétroliers qui est principalement portée par l'Arabie Saoudite, l'Iran et les Émirats Arabes Unis.
Pourquoi De Saint-Phalle aurait-elle été tuée par le plastique? Lors de nos recherches, notamment dans les épisodes sur art, droit et environnement, nous avons perçu que les questions de genre s'accentuent quand les différences de classe sociale sont plus profondes. Comme nous l'avons vu, De Saint-Phalle est issue d'une classe sociale privilégiée et malgré des périodes intenses de bohémie, sa distinction, dans un sens bourdieusien, lui a permis d'être privilégiée même dans des périodes de pauvreté financière. Nonobstant, sa condition de femme pourrait-elle être pour quelque chose dans sa mort ? Voyons d'abord d'un point de vue général si nous pouvons trouver un lien entre les questions de genre et le plastique.
Dans de très nombreux pays, ce sont les femmes qui s'occupent de l'alimentation, qui s'occupent des cultures, qui s'occupent d'aller chercher de l'eau. Et dès lors que les conditions environnementales se dégradent, ce sont les femmes qui en subissent en premier lieu les conséquences, parce qu'il va y avoir moins d'eau, il va falloir aller plus loin pour en trouver, où l'eau va être de mauvaise qualité. Le potager qui sert à alimenter le foyer va brûler sous des températures trop chaudes. Et donc ce sont les femmes qui sont les premières victimes de ces dégradations environnementales.
Maître Mabille expliquera dans notre prochain épisode comment ces discriminations environnementales ne se limitent pas à la question du genre. Nous verrons également, grâce à l'historienne du droit Victoria Vano, la nature et la juridicité du terme féminicide pour répondre de façon concrète à la question quelque peu provocatrice dans le titre de cet épisode. Les éléments biographiques et esthétiques liés à Niki de Saint-Phalle seront également déployés afin d'expliciter nos conclusions dans un troisième épisode. Ces conclusions seront également enrichies de nos visites aux trois expositions qui se tiennent à Paris au moment où nous produisons ce podcast. L'exposition au Grand Palais, intitulée « Niki de Saint-Phalle, Jean Tinguely, Pontus Ultène », produite par le Centre Georges Pompidou, celle de la Bourse de Commerce qui présente l'une de ses nanas dans l'exposition « Corps et âme », et l'exposition « Tous légers » au Musée du Luxembourg. Merci à Sébastien Mabille et à Hélène Munier pour leur aimable participation.